Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Poursuivant son cycle de catéchèses sur le zèle apostolique, le pape François est revenu sur la figure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne universelle des missions, dont les reliques étaient présentes mercredi matin sur la place Saint-Pierre. Le Saint-Père s'est rendu par la suite à l'hôpital Gemelli de Rome pour une nouvelle intervention chirurgicale. En République démocratique du Congo, l'Église poursuit les travaux de son troisième congrès eucharistique. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Nigeria, au Burundi et au Sénégal, entre autres. La deuxième partie de ce programme est dédiée à l'invité du jour, le cardinal Michael Tserny, préfet du dicastère pour le développement humain intégral, de retour du Congo où il a participé au 140e anniversaire de l'évangélisation dans ce pays. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
C'est en présence des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que le pape François a tenu son audience générale mercredi 7 juin, place Saint-Pierre. Les reliques de la Sainte vont pérégriner en Italie jusqu'au 17 juin prochain. Le Saint-Père a poursuivi sa catéchèse sur le zèle apostolique en la centrant sur la Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église et patronne universelle des missions. Le cœur de Sainte Thérèse est un exemple à suivre chaque jour, a-t-il rappelé le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
Si son corps était infirme,
si son corps était infirme, son cœur était vibrant, missionnaire, a souligné François, rappelant que dans son journal, Thérèse expliquait qu'être missionnaire était son désir et qu'elle voulait l'être non seulement pour quelques années, mais pour le reste de sa vie. Sans en avoir l'air, elle intercédait pour les missions, a poursuivi l'évêque de Rome, caché comme un moteur qui donne au véhicule la force d'avancer. Deux épisodes survenus avant l'entrée de Thérèse au monastère nous aident à le comprendre, a expliqué le pape. Le premier a lieu lorsqu'elle a 14 ans, la nuit de Noël 1886. Son père fatigué ne veut pas assister à l'ouverture des cadeaux de sa fille. Blessée, Thérèse pleure, mais se console vite en comprenant que Jésus est au centre, qu'il s'est fait faible par amour. Le deuxième épisode est celui où Thérèse apprend l'existence d'un criminel condamné à mort pour un triple meurtre. Il est destiné à la guillotine, mais ne veut pas recevoir les consolations de la foi. Thérèse prie alors pour sa conversion. Sur l'échafaud, le criminel embrassera un crucifix. Alors son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui a déclaré qu'au ciel, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence, commenta la sainte dans son journal. Le pape a ainsi rappelé combien l'Église avait besoin de cœurs comme celui de Thérèse, de cœurs qui attirent à l'amour et rapprochent de Dieu, en demandant à la sainte la grâce de dépasser notre égoïsme et la passion d'intercéder pour que Jésus soit connu et aimé.
À la fin de l'audience générale, le Saint-Père s'est rendu à l'hôpital universitaire Agostino Gemelli pour une opération chirurgicale de laparotomie et de chirurgie plastique de la paroi abdominale. Le directeur du bureau de presse du Vatican, Matteo Bruni, a indiqué que l'opération, organisée ces derniers jours par l'équipe médicale qui assiste le Saint-Père, est devenue nécessaire en raison d'une hernie qui provoque des syndromes sous-occlusifs récurrents, douloureux et s'aggravant. Le séjour à l'établissement de santé durera plusieurs jours pour permettre le déroulement normal des suites opératoires et une récupération fonctionnelle complète. Mardi 6 juin, le pape s'était rendu à la polyclinique Gemelli dans la matinée pour y subir des examens cliniques. Il est ensuite retourné au Vatican. Mercredi 29 mars, le Saint-Père avait été admis en urgence au Gemelli à cause d'une infection respiratoire. En juillet 2021, François avait été hospitalisé pendant 10 jours à cette même polyclinique universitaire pour opération du côlon. En Tanzanie, le Saint-Père a nommé évêque de Tanga le père Thomas John Kiango, actuellement administrateur diocésain du même siège. Monseigneur Thomas John Kiango est né le 17 mars 1965 à Mazindengwa, diocèse de Tanga. Il a été ordonné prêtre le 16 juillet 1997 pour le diocèse de Tanga. Il est titulaire d'un doctorat en théologie dogmatique à l'Université pontificale urbanienne de Rome. Depuis 2020, il était administrateur diocésain de Tanga. L'actualité de l'Église concerne à présent la République démocratique du Congo. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu nous fait part des travaux de la journée de mercredi dans le cadre du Congrès Eucharistique National en cours.
Le mercredi 7 juin, le troisième congrès eucharistique national tenu à Lubumbashi depuis le dimanche 4 juin a donné l'occasion à des évêques de dispenser une catéchèse dans des églises de l'archidiocèse de Lubumbashi. Le cardinal Fridolin Mbongo, par exemple, l'a fait dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul, c'était en français. D'autres évêques l'ont fait dans d'autres églises, dans les quatre langues nationales, Lingala, Swahili, Kikongo et Chiluba. Cette catéchèse des évêques au quatrième jour du congrès eucharistique national, c'était l'occasion de vulgariser les enseignements des trois jours d'un colloque théologique tenu dans la salle Monseigneur Jean-Pierre Tafunga du centre pastoral. Des théologiens et autres pèlerins venus avec leurs évêques des 48 diocèses du pays ont réfléchi autour du thème central du congrès eucharistique, à savoir Eucharistie et famille. Au dernier jour du colloque, à matinée du mercredi 7 juin, ce sont ainsi trois évêques qui ont prononcé des conférences introductives aux débats et échanges. L'évêque de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, président de la commission épiscopale pour la liturgie et la discipline des sacrements, a parlé de la célébration digne de l'Eucharistie. Un autre liturgiste, l'évêque de Lissala, Monseigneur José Bernard Licolo, a parlé de l'Eucharistie et des sacramentaux. Entre les deux, l'évêque d'Ouvira, Monseigneur Sébastien Muyengo, a traité de la relation entre Eucharistie et écologie. Monseigneur Muyengo a fait réfléchir sur les paroles de la messe où l'on présente les offrandes comme fruit de la terre et du travail des humains. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Ce grand événement de l'Église en République démocratique du Congo a été lancé dimanche 4 juin par une messe présidée par l'archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale, Monseigneur Marcel Outembi, dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Dans quel contexte peut-on situer ce congrès eucharistique? Monseigneur Marcel Outembi nous en donne quelques pistes. On l'écoute.
L'année 2023, c'est une année de grande bénédiction pour l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. Au tout début de cette année, nous avons eu le bonheur d'accueillir le Saint-Père pour sa visite apostolique annoncée il y a une année. Cette visite apostolique avait été reportée pour raison de santé et voilà, et quelques mois plus tard, il a plu au Saint-Père de renouveler sa volonté d'accomplir cette visite dans notre pays. Et ce fut pour nous un moment de grâce d'accueillir le Saint-Père, de passer 4 jours avec lui, de recevoir ses enseignements à travers la célébration eucharistique, l'homélie qu'il y a prononcée, mais aussi à travers les mots d'encouragement, d'exhortation dans ses rencontres avec les différentes catégories de personnes, les mondes politiques, diplomatiques, les ecclésiastiques et les jeunes, les agents pastoraux et les évêques, les survivants victimes des guerres de l'Est, des atrocités, et les papes a donné des messages à toutes ces catégories de personnes. Pour nous, ces messages constituent des orientations pastorales que nous devons approprier et pour organiser notre pastoral d'ensemble en République démocratique du Congo. Juste 4 mois plus tard, voilà que nous nous retrouvons à Lubumbashi pour célébrer le 3e congrès eucharistique national qui intervient après les 2 premiers congrès qui étaient organisés. Le premier en 1933 à Kisantu et le deuxième en 1980 à Kinshasa. Cela nous donne une occasion de magnifier le nom du Seigneur qui nous donne cette opportunité de vivre en Église, en esprit de synodalité, pour méditer sur la thématique de Eucharistie et famille. Vous savez, nous avons choisi ce thème en raison de l'importance des rôles que jouent ces deux réalités dans la vie de l'homme en général et en particulier dans la vie du chrétien. L'Eucharistie fait l'Église. L'Église fait l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le don par excellence que le Seigneur a fait à son peuple. C'est son Fils qui se donne à l'humanité, plus précisément à l'Église, comme nourriture spirituelle devant entretenir notre foi devant assurer notre croissance spirituelle et en vue de notre sanctification pour entrer en communion intime avec le Christ qui se donne comme nourriture spirituelle à l'humanité.
Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani et président de la CENCO, propos recueillis par Stanislas Kambashi. Haïti a été frappé par deux catastrophes naturelles dans l'espace d'une semaine. En pleine lutte avec les conséquences d'inondations dévastatrices ayant causé la mort de 42 personnes et blessé une centaine mardi, le pays a été une nouvelle fois secoué par un séisme survenu dans sa péninsule du sud-ouest. Bilan, 4 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. Un aperçu de la situation avec Mgr Gontran Descostes, évêque de Jérémie, situé en plein cœur de cette région durement touchée.
L'Église met en marche la machine caritative pour intervenir en faveur de ces gens avec nos maigres ressources et toujours comptant sur l'aide de nos églises sœurs. Tout d'abord, nous menons une enquête pour savoir dans les 58 paroisses du diocèse de Jérémie quelles sont les familles touchées, quels sont les problèmes réels et quel type d'intervention effectuer pour être encore plus efficace et aider vraiment les personnes qui sont vraiment touchées dans ces inondations et aussi après ce séisme du 6 juin 2023. Avec la défaillance, la faillite de l'État en Haïti, c'est pratiquement l'Église catholique et les autres églises évangéliques qui jouent un rôle de suppléance dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture, de l'environnement, etc.
Monseigneur Gontran Descostes, évêque de Jérémie à Haïti, propos recueillis par Pierre Damerson.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au Burundi, le principal parti d'opposition, le Conseil national pour la liberté, a vu ses activités suspendues par le ministère de l'Intérieur. Les détails avec Léonce Bitario.
Les tensions montent entre le pouvoir CNDD-FDD et le CNL, Congrès national pour la liberté, à la veille des élections. Le ministre de l'Intérieur, Martin Ninheretse, ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions, avait invité mardi tous les gouverneurs de province pour leur annoncer que les congrès et autres réunions du parti CNL sont suspendus sur tout le territoire national. Comme explication, il y a un climat de méfiance et de mésentente entre les organes et dirigeants de cette formation politique, lequel climat risque de perturber la sécurité publique. La décision fait suite à deux congrès de ce parti, les 12 mars et 30 avril derniers, visant à doter le parti de nouveaux statuts et règlements intérieurs. Certains membres du bureau politique se sont vus évincés et ont vite porté plainte au ministre de l'Intérieur, qui a finalement invalidé les résultats de ces congrès. De son côté, le président du parti CNL, Agathon Rwasa, nie tout climat malsain au sein de son parti. Il parle de juste 10 personnes qui, selon lui, ne peuvent en aucun cas faire front à des milliers de membres. Il nie par ailleurs toute forme d'irrégularité lui reprochée par le ministre quant à la tenue de ses congrès. Léonce Bitariho, Bujumbura, Radio Vatican.
Le gouvernement rwandais a opéré un large remaniement au sein des forces armées, annonçant mercredi le limogeage d'officiers de haut rang après avoir remplacé mardi le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Par ailleurs, un tribunal de l'ONU basé à La Haye a déclaré mercredi que Félicien Kabuga, présumé financier du génocide au Rwanda en 1994 et actuellement octogénaire, était inapte à être jugé, excluant ainsi la tenue d'un procès. Au Nigeria, 30 éleveurs ont été kidnappés vendredi par des djihadistes de Boko Haram dans le nord-est du pays. Les ravisseurs ont exigé des familles des otages le paiement d'une forte rançon pour leur libération, comme l'ont rapporté mardi des pêcheurs et un responsable d'une milice soutenue par le gouvernement. Le gouvernement sénégalais a annoncé mardi la fermeture temporaire de ses consulats généraux à l'étranger. Cette mesure conservatoire fait suite à une série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger. Les consulats rouvriront lorsque les conditions matérielles et sécuritaires le permettront.
Invité du jour.
Le cardinal Michael Cerny, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral et envoyé du pape pour la célébration des 140 ans de l'évangélisation du Congo-Brazzaville, a achevé son séjour dans ce pays mercredi 7 juin. Avant de regagner Rome, le représentant du pape a rencontré le président congolais Denis Sassou Nguesso mardi 6 juin. Il nous donne ses impressions sur le déroulement de cette visite pour une église qui écoute.
Ce que je suis content de dire, c'est que même si je suis allé pour célébrer une mémoire, une histoire, j'ai trouvé toute la célébration plutôt comme un point de départ, un nouveau commencement. On a commencé avec les missionnaires, maintenant presque toutes les autochtones. Et c'est plutôt dire qu'on est en train d'apprendre, de vivre et partager l'Évangile et de faire face aux énormes défis du pays.
Que dire alors de la synodalité comme nouvelle orientation de la marche de l'Église universelle?
La synodalité était inclue expressément dans le thème du jubilé. Comme ça, dès le commencement, on a compris que le jubilé était une contribution à la préparation synodale, c'est-à-dire à apprendre, à écouter et à cheminer ensemble comme peuple de Dieu avec ses ministres et avec ses pasteurs.
Vous avez rencontré le président congolais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre en termes de relations entre État et Église pour accompagner le peuple de Dieu dans sa marche?
On a plutôt parlé de l'engagement de Congo-Brazzaville dans la recherche de la paix dans diverses situations difficiles. Et j'étais content d'écouter ce que le président dit, tous les efforts qu'il fait, et j'ai terminé en disant que l'Église est toujours disposée à aider en la difficile marche vers la paix.
Dans ce sens, que peut-on retenir de la collaboration entre l'Église et État sur le chemin du développement du pays et de l'Église?
La chose importante, ce sont les efforts de l'Église où le peuple de Dieu puisse être protagoniste de son développement. Et c'est vrai pour les jeunes, pour les adultes, les très jeunes, et même pour les âgés, les sages. Et le défi du développement, c'est une partie intégrale de notre foi, de notre vie d'Église et de la vie de chacun comme citoyen.
Avant de quitter le Congo, quel est votre message d'encouragement vis-à-vis de ce peuple de Dieu que vous êtes venu accompagner, aussi bien pour toute l'Afrique quant à l'engagement et la fidélité dans la foi et dans la poursuite des œuvres laissées par les missionnaires?
C'était la première fois que je suis envoyé comme délégué du Saint-Père et j'étais très content de voir comme les gens ont accueilli un ambassadeur, si tu veux, ou une représentant qui faisait présent le Saint-Père avec sa sollicitude paternelle, sa prière, sa solidarité, son encouragement. J'avais la joie de présenter le Saint-Père et j'ai la satisfaction que le peuple de Dieu en Congo-Brazzaville a accueilli cette représentation comme une visite, on peut dire, de l'Église. Une visite en ce sens de toute l'Église et une visite, même une présence du Saint-Père. Oui, le mot d'encouragement, c'est de faire l'effort de synodalité, c'est-à-dire d'apprendre, d'écouter et finalement de marcher ensemble, même si ça semble un peu, à fois un peu difficile. Tout le monde n'est pas d'accord, mais mon encouragement, c'est de continuer sur ce chemin qui est, comme François a dit, le chemin de l'Église dans notre siècle. Et je encourage toute l'Église en Afrique, en fait, d'avoir cette opportunité et ce défi de devenir une vraie Église synodale. Avec autre parole, que l'Église, famille de Dieu en Afrique, aujourd'hui se développe en devenant Église synodale.
Le cardinal Michael Cerny, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral et envoyé du pape au 140e anniversaire de l'évangélisation du Congo, des propos recueillis par Jacques Ngol.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabo-Alo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt dans nos prochains programmes. Laudetur Jésus Christus. Yes,